Les gens, c'est comme les mots. Il y a ceux que j'aime et ceux que j'aime pas. Quand j'aime pas, je supprime. Les mots, les gens, je supprime. Mais supprimer, justement, c'est un mot que j'aime pas.
Supprime-le.
Est-ce que tu peux être con? T'es même pas con, t'es bête. Tu sais rien, tu vas jamais au cinoche, tu te tiens au courant de rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents. Dans le fond, être tout idiot, t'es peut-être dans le vrai. Le savoir, quand on commence à mettre le nez dedans, c'est pire que la canne.
La ligne claire. Dernier numéro de ce magazine sonore qui, je l'espère, a su vous surprendre, vous séduire et vous captiver. Vous êtes prêts? Je suis prêt aussi. Et maintenant, commençons.
Je suis prête. Vous êtes prêts aussi?
Attention.
Et maintenant, commençons.
Bonjour Chrisless. Cet été-là, j'avais 17 ans et j'étais parfaitement heureuse. Les autres étaient mon père et Isaac. Il me faut tout de suite expliquer cette situation qui peut paraître fausse. Mon père avait 40 ans. Il était mon père avec 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 40 ans. Il était veuf depuis 15 ans. C'était un homme jeune, plein de vitalité, de possibilités. Et à ma sortie de pension, 2 ans plus tôt, je n'avais pas pu ne pas comprendre qu'il vécut avec une femme. J'avais moins vite amie qui n'en changea jamais.
J'avais moins vite amie
qui n'en changea jamais.
Et j'étais parfaitement heureuse.
J'avais moins vite amie qui n'en changea jamais.
Les autres étaient mon père et Lisa, sa maîtresse.
Et bien plus à cette situation.
Il nous faut tout de suite expliquer cette situation qui peut paraître fausse. Mon père avait 40 ans, il était veuf depuis 15. C'était un homme jeune, plein de vitalité, de possibilités, et à ma sortie de pension 2 ans plus tôt, je n'avais pas pu pas comprendre qu'il vécut avec une femme.
J'avais 17 ans, j'étais parfaite.
Bonjour, tristesse. Bientôt, sa séduction, cette vie nouvelle et facile, mes dispositions m'y amenèrent. C'était un homme léger, habile en affaires. Le poisson filait silencieusement à travers les eaux ténébreuses qu'il fouettait de sa queue en forme de croissant, la gueule ouverte, juste ce qu'il fallait pour
pour assurer la circulation d'un courant d'eau sur ses ouïes. En dehors de ses coups de queue secs, il se contentait de soulever ou d'abaisser de temps à autre une nageoire pectorale pour corriger sa trajectoire, apparemment sans but, comme un oiseau qui, pour changer de direction, incline tantôt une aile, tantôt l'autre. Ses yeux étaient aveugles dans l'obscurité et ses autres organes sensoriels ne transmettaient rien d'extraordinaire à son cerveau primitif et de volume réduit. Mâchoire.
Juste ce qu'il fallait pour assurer la circulation d'un courant d'eau sur ses os. En dehors de ses coups de queue sec, il se contentait de soulever ou d'abaisser de temps à autre une nageoire pectorale pour corriger sa trajectoire apparemment sans but. Comme un oiseau qui, pour changer de direction, incline tantôt une aile, tantôt l'autre. Ses yeux étaient aveugles dans l'obscurité et ses autres organes sensoriels ne transmettaient rien d'extraordinaire à son cerveau primitif et de volume réduit.
Cette nuit, tu peux te réjouir, ô grand-mère. Au fond de tes lacs si purs, de tes rivières et de tes océans, dans tes entrailles animales et ta sève secrète, court l'éclat d'une grande nouvelle. L'un de tes rejetons héroïques s'est enfin levé pour affronter seul la race humaine. Un ruban noir.
En dehors de ses coups de queue secs, il se contentait de d'abaisser ses tendons d'une nageoire pectorale pour corriger sa trajectoire apparemment sans but. Comme un oiseau qui changeait de direction, incline tantôt une aile.
Et nous rions à en mourir, nous, les premiers troués. Et nous rions avec raison, car de quoi pourrions-nous avoir peur désormais? Ne sommes-nous pas déjà au-delà de ta mort dans cette vaste rumeur de fête noire qu'entonnent les bois, de tous leurs bras levés sous l'œil mi-clos de la lune sanglante? The Windows of the World est le titre d'une chanson de Burt Bacharach et de Al David, interprétée en 1967 par John Warwick. Que disent les paroles? Que disent les paroles?
Elle voulait parler, crier, quelque chose de plus loin comme c'était tout le monde. Mais elle demeurait paralysée dans un enthousiasme intense. Alors, elle sentit ses yeux plus de larmes et une peur plus de larmes.
Que disent les paroles? Elles ont été écrites contre la guerre du Vietnam. The windows of the world, les fenêtres du monde, sont couvertes de pluie. Où est le soleil d'autrefois? Tout le monde sait que les enfants qui jouent ont besoin de soleil pour grandir. laisse passer les rayons du soleil. Les fenêtres du monde sont couvertes de pluie. Quand donc ce ciel noir retrouvera le bleu? Tout le monde sait que les garçons qui deviennent des hommes se demandent quand leur pays va les appeler. Laisse passer les rayons du soleil. Je me demande si le patron du Windows on the World pense. Fenêtre. De l'Institut de beauté.
Ma vie en morceaux. Je ne les ai pas vus, juste entendus. Je marchais sous un vent glacial et je ne me suis pas arrêté. Mais leur chant m'a frappé. Où faisait-il la force dans cette ambiance polaire?
À quoi ressemblait-il? Peut-être n'y en avait-il qu'un. Survivrait-il un hiver? Je suis rentré chez moi. Et je me suis, comme d'habitude, enfermée dans ma chambre.
J'ai sorti le gros cahier de texte, rouge, de son tiroir, et j'ai noté cette phrase. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans les grandes glacées, ça suffirait pour aujourd'hui. Je crois qu'elle serait plus tard.
Beaucoup de gens avaient vu Martine à la télévision, des clientes, la concierge, des camarades de l'Institut de beauté. La concierge, toujours aimable avec Martine, si travailleuse, si jolie, si rangée, et que son mari laissait seul un scandale. La concierge était simplement en extase devant elle. Comme Madame Donnel était jolie à l'écran, et comme elle avait bien chanté, comme on en voit tant d'autres, ah là là, on se demande comment elles osent se présenter devant des millions de téléspectateurs. De téléspectateurs. De téléspectateurs. De téléspectateurs.
On en voit tant d'autres. Ah, là, là, je demande comment elles osent se présenter devant les millions de téléspectateurs.
À l'Institut de beauté, depuis cette émission, le prestige de Martine avait grandi démesurément. Je ne les ai pas vues, juste entendues. Je marchais sous un vent glacial. Et ne me suis pas arrêté. Mais leur chant m'a frappé. Où puisait-il la force dans cette ambiance polaire? À quoi ressemblait-il? Peut-être y en avait-il qu'un. Survivrait-il à l'hiver? Je suis rentré chez moi et me suis, comme d'habitude, enfermé dans ma chambre. J'ai sorti le gros cahier de texte rouge de son tiroir et j'ai noté cette phrase. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé, ça suffirait pour aujourd'hui. Je compléterai plus tard. et Jeanne se sentait devenir folle de bonheur. Une joie délirante, un attendrissement infini devant la splendeur des choses noya son cœur qui défaillait. C'était son soleil, son aurore, le commencement de sa vie, le lever de ses espérances. Elle tendit les bras vers l'espace rayonnant avec une envie d'embrasser le soleil. Elle voulait parler, crier, quelque chose de divin comme cette éclosion du jour.
Et que son mari laissait seul, à ce qu'on est. La concierge était simplement en extase de monde. Comme elle avait l'air était rouge. Et comme elle avait bien chanté. Quand on en voit tant d'autres, là et là, on se demande comment ils osent se présenter devant les millions de téléspectateurs. À l'Institut de l'été, depuis cette émission, le prestige de Martin avec un grand
Elle demeurait paralysée dans un enthousiasme impuissant. Alors, posant son front dans ses mains, elle sentit ses yeux pleins de larmes. Et elle pleura délicieusement.
Si travailleuse, si jolie, si rongée, et que son mari laissait seul, à ce qu'on a. La concierge était simplement à l'extase devant elle. Comme Madame Bonnel était jolie à l'écran, et comme elle avait bien chanté. Quand on en voit tant d'autres, ah, là, là, on se demande comment ils osent se présenter devant des millions de téléspectateurs. À l'Institut d'été, depuis cette émission, le prestige de Martine avait grandi dès mille jours.
L'oisiveté est véritablement le commencement de tous les vices. Elle se trouve ainsi, au moins dans le voisinage, le plus proche de toutes les vertus. L'homme oisif est toujours un homme meilleur encore que l'actif. Vous ne pensez cependant pas que, par loisir et oisiveté, ce soit vous que je désigne. Oh, paresseux. J'aime l'argent sur les murs. Supposons que vous soyez sur le point d'acheter un tableau à 200 000 dollars. À mon avis, vous feriez mieux de prendre cet argent, d'en faire une liasse et de l'accrocher au mur. Quand on vous rendrait visite, la première chose qu'on verrait serait l'argent au mur. Gagner de l'argent est un art. Travailler est un art. Et faire de bonnes affaires est le plus bel art qui soit. Vous avez remarqué ? Fleurissent dans les salons, les restaurants, les alcôves, les bureaux ou les antichambres du pouvoir, à la barre des tribunaux, dans les coulisses des théâtres. L'esprit a besoin d'un partenaire pour s'exercer. Dans cet échange dialogué, la répartie bienvenante, ironique ou cruelle est un sommet. Le point culminant de la conversation. Celui où on cloue le bec à l'interlocuteur en lui ôtant la possibilité d'avoir le dernier mot.
La chose qu'on faire de bonnes affaires.
Une femme s'abat sur un lit. Sur le mur d'en face, une autre femme la guette. Suzanne, son double, qui la traque dans tous les tiroirs. Miroir. Mouroir. La tuer, sous la douche, Suzanne pleure jusqu'à l'ivresse. Tremblante, elle se glisse dans la ville, retrouve l'amant, ses mots d'amour brûlants, leur corps à corps acharné. Le bourreau qu'elle aime et qu'elle ne quitte pas pour l'amant. Mais luciforien, étrange créature qui la persécute avec leur sexe inquisiteur. Chuchotement, brouillage, chuintement, voix lointaine. Et si cette parole se parlait toute seule, parole raturée avançant en balbutiant. La ville au 9/10 endormie, alors totalement quadrillée, recouverte, ensevelie par ce réseau d'ondes. Quadrillage, ensevelissement, dans lequel nos gestes, nos paroles, nos intonations s'inscrivent, d'où ils émergent lentement. Et c'est sur fond de ce plasma sonore, qui ne cesse jamais tout à fait, qu'ont lieu les mots qui suivent.
Le chat s'ouvre. 17 années de nuit, tous les deux enlacés, sans jamais fermer la porte de ma chambre, pour qu'il puisse me rendre visite quand il le souhaitait. On prie. Son territoire préféré était l'espace entre mes oreilles. C'est là que le manque était le plus criant, la nuit, avec ce vide sans respiration.
Il s'appelait Souris. Souricale. C'était un chat,
mâle,
noir et blanc, que l'artiste Sophie Gall reçut en cadeau d'anniversaire le 11 octobre 1996 et qui mourut le 26 janvier 2014 à 15h35. 17 années de nuit, tous les deux enlacés, sans jamais fermer la porte de ma chambre pour qu'il puisse me rendre visite quand il le souhaitait, on prit fin. Son territoire préféré était l'espace entre mes oreillers. C'est là que le manque est le plus criant la nuit, avec ce vide sans respiration.
Oxidized like a bad grease, wrapped up in tightening stone. Though grape maces diluting, here the copper turned into skin. Witness of mountains forming process. Unstable rocks collapse and fall. Then they disappear in the shadows, in the gaping hole where no signals, where no kind of sound never echoes. Witness of mountain forming process. In the Eiffel speck of dust. 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 In the Eiffel speck of dust.
Morte, morte de froid. Le dernier soir de l'année. Morte, morte de froid. Le dernier soir de l'année.
Vous avez remarqué.
Vous avez remarqué.
Vous avez remarqué.
Vous avez remarqué. Ah, vous aviez remarqué. Morte, morte de froid. Dernier soir de l'année. Au jour de l'onde se lèvera sur le petit cadavre assis là avec les allumettes. Morte, morte de froid, le dernier soir de l'année, le jour de l'an se leva sur le petit cadavre assis là,
des SMS.
Avec les allumettes.
Moi, je fais tout avec une certaine imperfection.
Elle était presque tout brûlée.
Ce qui permet de rester modeste.
Elle a voulu se chauffer, dit quelqu'un.
Merveilleuse.
Vous avez remarqué.
Tout le monde ignora les belles choses qu'elle avait
vues. Vous avez remarqué.
Et
vous
avez dans remarqué. Les lieux de quelle splendeur elle était entrée avec sa grand-mère.
Vous avez remarqué.
Dans la nouvelle année.
Vous avez remarqué. Vous avez remarqué. Vous avez remarqué.
Morte.
Vous avez remarqué.
Morte de
froid. Vous avez remarqué.
Le dernier soir de l'année.
Vous avez remarqué. 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 Vous avez remarqué.
Je mange un œuf est la mise en mots de 120 jours de la vie de Nicolas Pagès. Trois mois d'été à Lausanne, Mykonos, Londres et retour. Nicolas Pagès, dans ce premier roman, n'écrit pas comme tout le monde. Écriture haletante, sans autre ponctuation que les virgules qui séparent chaque action. Light, caméra, action. Light, caméra, action. Action, action.
Comme le soleil, tu regardes l'horizon, danse comme ça, c'est nickel.
Je rêve toujours d'un ombre plus chaleureux, plus rondouillard, plus agréable à l'œil. Un ombre avec en son sein quelques zéros bien ventrus, voire des 8, des 6 ou des 9 pensus à souhait. Un beau 3 généreux comme une poitrine de nourrice suffirait amplement à mon bonheur. 14717, c'est tout en os, un nombre pareil, ça vous expose sa maigreur sans détour, vous agresse la rétine de l'aigu de ses angles. Quoi que vous fassiez, une fois posé sur le papier, ça reste toujours une suite de droites facturées. relecture serait alors une lecture.
Une lecture inconsciemment,
bah, une lecture inconsciemment chargée de tout ce qui, entre une lecture et l'autre,
est passé
sur ce livre
et à travers ce livre, dans l'histoire humaine et en nous. Voilà pourquoi la joie,
voilà
de, la
pourquoi la joie de la relecture est plus intense,
plus lumineuse
que celle de la lecture.
Et on pourrait en venir à formuler
un paradoxe.
Un paradoxe.
En relisant
toute une vie
le même livre,
on obtiendrait
un plus grand bonheur qu'en lisant toute une bibliothèque. Encore faut-il naturellement trouver et choisir un livre qui vaille la peine,
que toute une vie tourne autour de lui,
comme la terre,
autour du soleil.
Le petit Lecoq, tout le monde jure, tout le monde s'insulte. Coluche, San Antonio, le capitaine Haddock, Racine, les Québécois, les personnages de Pagnol, ceux de Molière, les Guignols, la Montagne, et les Beaucartiers, les automobilistes. Scatologique, politique, phallocrate, raciste, homophobe, toujours dépréciatif, généralement injuste, les injures volent souvent.
Faites le deuil de l'élégance, mais certainement pas de la curiosité.
C'est un voyage passionnant dans les marges de notre langue, une balade qui raconte en filigrane l'histoire de notre société, de ses tabous ou de son progressisme. De
abominable à zut,
en passant par
empaffé, morveux, jarnicoton, merdeux,
toute l'histoire des insultes et des
tonnerres de Brest. Moi, je trouve que j'ai tout pour faire une idole. De mes chansons, j'écris musique et paroles. Je devrais déjà gagner des sommes folles, oui, mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas un sou. J'ai tout pour plaire, je chante comme une casserole. J'ai 14 ans, je vais encore à l'école. J'ai le regard flou et la tête un peu molle. Oui, mais seulement, je connais pas grande Maïtou. On parle de moi dans les magazines. J'aurai des photos en train de faire la cuisine. Je ferai de la publicité pour la margarine et ça me rapporterait un tas de sous. Cette musique a été influencée par les aléas récents de ma vie. J'ai beaucoup voyagé ces temps-ci, généralement en voiture. N'étant que vitesse, la techno est la musique idéale pour de pareils déplacements. Ces rythmes répétitifs, ces mélodies minimales et ces modulations de texture conviennent parfaitement aux perspectives toujours changeantes d'un trajet à haute vitesse. Par ailleurs, le crépitement des sonorités électroniques évoque de manière troublante le bruit sec des synapses, forcé à traiter un déluge d'informations ininterrompues et toujours plus denses. L'enfance de chacun se rejoue tout le temps. Pas étonnant que personne ne connaisse l'autre, ni ne puisse le comprendre entièrement. Je ne sais pas si j'en arrive à cette conclusion, à tout laisser tomber. Ou si c'est la première fois peut-être que je suis connecté à la réalité. Comment est-ce qu'on sait la souffrance des jeunes années de l'autre, sans parler de tout ce qu'il traîne avec lui ? Puisqu'au mieux, une large marge de manœuvre est nécessaire pour l'autre. Et pourtant, combien c'est malsain de le supporter. Je pense que le mieux est d'aimer bravement et d'accepter autant qu'on peut le supporter. Fragment. Machine Soul. Berlin de Vénus, le petit Tico, le viseur du 6h27. Je mange un œuf. Allumette. Le chat sourit. Éteint. Rose poussière. L'ennemi intérieur. De A à B. Je sors ce soir. Une vie. Ma vie en morceaux. Rose à crédit. Fenêtre. Un ruban noir. Mâchoire. Une belle journée. Le dernier mot. Boulevard des SMS.
Perle administrative. Notre ménage se compose de mon mari et de moi, deux petits bébés, grand-mère qui est paralysée, trois lits, l'armoire, une chambre à la télé, le tout en parfait état de marche. Quand l'huissier a parlé de me saisir, je lui ai interdit de me toucher. Et c'est en me défendant que mon mari l'a bousculé. À ce moment-là, il disparaît sous le plancher, car il était complètement pourri.
Notre ménage se compose de mon mari et de moi, deux petits bébés, grand-mère qui est paralysée, trois lits, l'armoire, une chambre et la télé, le tout en parfait état de marche. Quand l'huissier a parlé de me saisir, je lui ai interdit de me toucher. Et c'est en me défendant que mon mari l'a bousculé. À ce moment-là, il a disparu sous le plancher, car il était complètement pourri.
Et c'est en me défendant que mon mari l'a bousculé. À ce moment-là, j'ai disparu sous le plancher car il était complètement mort. Perle administrative.
J'ai écrit ces pensées, ces apoctèmes, avant le 11 septembre 2001,
de mon mari et de moi,
avant que les tours ne s'écroulent, que mes biens, mes rêves, me périclitent, me transformant en mirage, trésor, pillage et incendie. Mussa, un ami, préparait le thé. Je sortais mon carnet. Lui lisait ses phrases à l'ombre des dunes, sous la voie lactée, au pays des morts. Au petit matin, des oiseaux sortis d'une cage invisible venaient nous saluer, se posaient à terre en pépillant. Le soleil apparaissait à l'horizon, réchauffant le sable et les pierres. Soudain, comme par enchantement, ils s'envolaient tous ensemble, dans un ciel sans nuages. Un profond silence minéral m'enveloppait alors immobile, je pensais à l'Europe et au mien.
C'est la réponse à ce genre de questions que nous propose l'ouvrage juridique « Pourquoi les choses d'un danger ?» Question. Pourquoi les choses d'un danger ?
Réponse. C'est le cardinal de Richelieu, exaspéré de voir les convives se curer les dents avec la pointe de leur couteau, qui en commanda au bout arrondi. De nombreux gentilshommes adoptèrent cet usage. Et le couteau bourdon fut bientôt présent sur toutes les tables. C'est une musique inépuisable, dont on ne fait jamais le tour. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment elle a été conçue. On peut repérer des filiations, trouver des points de convergence avec d'autres musiques, mais jamais la cerner complètement. Ni définir un quelconque modus operandi. Elle a à voir avec le blues, avec un certain pastoralisme folk aussi. Comme Nick Drake, sans jamais s'y réduire. Elle n'assène rien, elle contemple. Amène à contempler. Le paysage est apaisant, libéré de toute énergie mauvaise. Impressionniste, elle impressionne, car elle ne revendique rien d'autre que le droit à la beauté. Elle est un soufflet permanent envers l'arrogance et la vulgarité de la pop mainstream contemporaine et ses mouvements de menton perpétuel. Talkie, walkie. Pourquoi des choses affoctent-elles? cheveux. Elle soigne son enfant depuis le brossage des cheveux jusqu'au fortifiant. Un point, c'est tout. Nous prenions notre petit déjeuner. Ma mère m'entretenait des laideurs de la vie. Elle m'offrait chaque matin un terrible cadeau. Celui de la méfiance et de la suspicion. Tous les hommes étaient des salauds. Tous les hommes étaient des sans-cœur. Elle me fixait avec tant d'intensité pendant sa déclaration que je me demandais si j'étais un homme ou non. Pas un ne rachetait l'autre. Abuser de nous, voilà leur but. Je devais le comprendre et ne pas l'oublier. Des cochons, tous des cochons.
Offense, dommage.
Violette.
C'est une femme. La cinquantaine. Peut-être moins. Difficile de lui donner un âge précis.
On devine que le travail l'ont fait vieillir prématurément. Et que la lassitude des combats a abandonné ses stigmates sur son visage. Elle s'appelle Suzanne. Les autres femmes qui l'entourent déclinent les prénoms dont on baptisait les filles dans les années 50. Entre elles, elles ne se ressemblent pas. Mais elles forment une communauté pourtant. Ça crève les yeux. Ce qui les rassemble, ce qui les agrège, ce qui les jette les unes contre les autres. Dans une fabrique de pianos désaffectés, d'Auckland, des jeunes idéalistes se préparent à entrer dans une ère purement spirituelle. Ils y fondent une communauté où ils organisent rave sur rave pour transmettre leur message New Age et accessoirement gagner de l'argent. Techno, rave, ésotérisme, cyberculture, secte et drogue, Douglas Ruskoff offre le premier cyber-roman d'espionnage, à moins qu'il ne s'agisse de l'aventure néo-psychédélique d'un club des 5 nouvelles générations au pays des X-Files, ou encore d'une gigantesque et brillante farce. Tout n'est qu'une question de point de vue. Ecstasy Club. La ligne claire. Offense. Dommage. On s'emploie avec raison à sauver toutes sortes d'espèces d'oiseaux, d'insectes, d'arbres, de plantes, de grosses et de petites créatures bien vivantes menacées de disparition. Rares sont les personnes émues par la disparition des mots. Ils sont pourtant plus proches de nous que n'importe quel coléoptère. Dieu sait que les initiatives ne manquent pas, ni les bras, ni l'argent pour conserver le patrimoine. Mais alors que les mots en font autant partie que les pierres, les tissus, la porcelaine, l'or et l'argent, ils n'intéressent pas grand monde. L'écologie des mots est balbutiante. Et si on travaillait à sauver des mots en péril? Sans mots. Sainte Nitouche, en baver des ronds de chapeau, se monter le bourrichon, en avoir sa claque, changer de crèmerie, laisser pisser le mérinos. Nés pour la plupart de la verve populaire, les expressions ont de la couleur, de la saveur, de la tchatch, de l'humour, de la drôlerie, de la cruauté, de la sagesse, de la poésie. Pourtant, certains vieillissent, passent de mode, paraissent de plus en plus énigmatiques. Pourquoi ne pas en sauver quelques-unes de l'oubli qui les menace? Expressionnisme. Living life in every living life. Mon allégresse macabre a fait place à de l'amertume. Et je pleure sur moi-même, sans parvenir à trouver la moindre consolation dans tout cela. Je pleure, je sanglote. Je veux juste être aimé, maudissant la terre. Et tout ce qu'on m'a enseigné.
Le liseur du jardin. 14 700. Je rêve toujours d'un homme. Je suis heureux. rendre bien, plus agréable à l'œil. Un or avec son 5 que 0 bien vendant.
14 717 14 717 14 717 C'est tout en os, un nombre pareil. 14 717 Les principes, les différences, les choix, la morale, le compromis, le savoir, l'unité, la prière, tout cela est erroné, tout cela était en vain, tout cela se résumait à « adapte-toi ou crève ».
Soit les plus difficiles à avaler, dès lors qu'on a posé les yeux sur un livre qui sort dans le commerce, que la majorité de la plupart des écrivains à présent, ils savent à peine manier leur syntaxe et que leur style est lourd. Ce qui serait pas grave en soi sur le plan qui concerne les idées qu'ont les écrivains, à cause dont il est difficile d'écrire toujours des choses inintéressantes et qu'on peut sans cesse inventer des histoires desquelles le lecteur friand d'aventure il s'intéresse forcément, pour ainsi dire. Never stop the conneries. Première fois dans l'histoire de la musique populaire, on se met à utiliser à outrance le deuxième degré et la disco peut être considérée à elle seule comme la responsable de l'état d'esprit génialement ringard de ces 15 dernières années. Auparavant, tout dans le rock était sincère, conçu pour provoquer ou séduire au premier degré. Même les plus cyniques étaient malgré tout sincères. La disco avance au contraire l'idée du ridicule positif, de la musique facile à vivre, de la joie un peu idiote. Planète Dance. Planète Dance. Planète Dance.
Never stop the connerie.
Never stop the connerie.
C'est une des choses qui se relève.
C'est une des choses
à avaler.
C'est une des choses qui se relève.
C'est une des choses
à avaler.
Dès lors qu'on a posé les yeux sur un livre,
sur un connerie,
que la majorité de leurs
écrivains écrivent
à présent, ils savent à peine manier leur syntaxe et que leur style est lourd.
Ce qui ne serait
pas grave en soi sur le plan qui concerne les idées
qu'ont les écrivains,
à cause dont il est
difficile d'écrire
des choses intéressantes,
et
qu'on ne peut pas sans cesse inventer des histoires desquelles
l'écrivain
d'aventure
s'intéresse
forcément.
Aujourd'hui, les vrais passeurs ou transmetteurs de disques. À l'heure où n'importe quel kidam peut s'improviser DJ en touchant deux boutons et en levant les bras en l'air, un livre arrive à point nommé. Le journaliste Ezrin Lebovitch donne la parole à 30 personnes qui, suivant les époques, ont lutté pour que tous les genres musicaux puissent s'imposer ici en France. Un vrai parcours de combattant pour certains. Un sacerdoce pour tous, quoi qu'il en soit. Qu'ils soient DJ, programmateurs de radio, animateurs d'émissions, journalistes, consultants en maison de disques, tous ont cet amour incommensurable de la musique et d'en parler. La faire découvrir, la faire exister. Passeur de disques. Avec elle, de sa descente aux enfers, sentit la pisse des toilettes publiques, où elle se shootait à l'héroïne dans le pied, car le reste du corps était perforé jusqu'au dernier centimètre carré. Eut la nausée lorsqu'elle s'embarquait en voiture avec un inconnu en quête de jeune chair. Elle, que l'addiction à la drogue rendait disponible et bon marché. Nous avons aimé son histoire d'amour avec un autre gamin de la drogue, Detlev, dans des squats pourris, où la question n'était pas de savoir qui allait mourir d'overdose, mais quand. Nous avons espéré aussi, l'estomac noué, à chacun de ses combats, bouleversants de violence, pour décrocher. Et lui en avons voulu de récidiver aussi vite, pour rien, comme si son vrai plaisir de décrocher était de savoir qu'elle allait rechuter après. Secrètement, nous l'avons admiré, de mener cette vie-là. Mais surtout, nous avons ressenti de la colère devant tant de malheurs et imploré le destin qui lui rende un jour son enfance volée. Christiane.
Allô, allô, ici la Terre, fusée lunaire, répondez. Allô, allô, ici la Terre, fusée lunaire, répondez.
Ici, fusée lunaire. Allô, 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 c'est Tintin qui vous parle. Je viens de reprendre connaissance,
Graphite 94.9, vous pouvez reprendre connaissance. La ligne claire se termine. Merci à Gisèle, Christian, Mitchoum, Laurent, Isabelle, Elodie,
pour la belle inspiration. Graphite 94.9, restez à l'écoute, il se passe bien des choses de ce côté de la radio. Très bel été à vous toutes et tous. La ligne claire.